Les cours du Collège de France, Stéphane Malla, chaire Sciences des données.
Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est reprendre ce que j'ai introduit la dernière fois, c'est-à-dire les normalizing flow en anglais. Et on va commencer avec une vision discrète, c'est-à-dire des opérateurs de transport qu'on va tronçonner en tranches, mais en tranches discrètes. Et dans la deuxième partie, ce qu'on va voir, c'est qu'on peut faire une approche qui est continue. Et là, on va se retrouver avec des outils mathématiques beaucoup plus fins qui, de fait, vont nous amener à des algorithmes qui sont eux-mêmes plus performants. Et c'est ce qui va nous amener jusqu'aux algorithmes de score diffusion. On va passer par les équations de Liouville, de Fokker-Planck, l'échantillonnage de Langevin, et ce sera le séminaire de Gabriel Perret juste après qui va introduire le score du fusion, et puis je reviendrai dessus plus en détail mathématiquement la fois prochaine. Donc je vous rappelle juste ce que sont ces normalizing flow en anglais. Flow renormalisant, mais comme c'est pratiquement toujours en anglais que on le rencontre, je vais le garder comme ça. Donc l'idée, c'est que, à nouveau, comme dans les GAN, on a un transport avec une distribution dans un espace de départ qui est une distribution relativement simple, et on veut arriver à la distribution des données qui, elle, est potentiellement beaucoup plus compliquée. Donc, dans le monde des X, c'est pour ça, ce qu'on va essayer de trouver, c'est un opérateur qui va mapper Z dans X. Et la particularité ici du modèle, contrairement au GAN, c'est qu'ici, on va imposer que T est inversible. Et plus que ça, on va imposer que T et T inverses sont différenciables, donc que T est un difféomorphisme. Et à partir du moment où on a ça, toute la question, c'est évidemment comment construire ce fameux T qui va nous permettre d'envoyer une distribution qui peut être par exemple uniforme, une distribution gaussienne, dans une distribution beaucoup plus compliquée, comme celle qu'on verra pour la création de visages. Je vais peut-être partir du début, ce genre d'image. Donc, l'idée centrale de ces algorithmes, c'est que l'opérateur T, on va le diviser en tranches, donc dans une série de petits opérateurs, T1, T2, TK, jusqu'au dernier. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est construire ces opérateurs petit à petit, qui vont nous amener jusqu'au difféomorphisme. Et évidemment, pour que T soit un difféomorphisme, ça, on va l'obtenir si chacun des petits opérateurs TK et lui-même un difféomorphisme. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que si on a un opérateur T comme ça, la distribution Px, donc calcul à partir de Pz avec ce qu'on appelle le push-forward qui est lié à de la distribution d'origine, et on a un lien entre Px et Pz à travers le jacobien. C'est-à-dire que Px de x, pour le calculer, on applique l'opérateur t-1, on va se retrouver en z, on va avoir t-1 de x, et il va y avoir un changement de métrique, et ce changement de métrique qui va être défini par le déterminant du jacobien de l'inverse de x. Et ça, en quelque sorte, c'est ce qui donne rapport des volumes entre, si vous prenez un volume ici qui va se mapper, donc vous avez un volume ici qui va se retrouver ici, si vous regardez le rapport des volumes ici sur des volumes élémentaires, en fait vous allez obtenir le déterminant du jacobien. Donc le jacobien, c'est ce qui donne le changement de métrique. Et donc si vous avez un changement de métrique, eh bien si un volume se retrouve sur un volume plus petit, comme toutes les particules vont se retrouver dans ce domaine-là, vous allez avoir une augmentation de la densité, et c'est ce qui est exprimé par cette formule ici. Donc, ce qu'on a vu, c'est que contrairement au GAN, ici, on va vraiment pouvoir essayer de mesurer la précision du modèle. Dans le cas du GAN, on sait qu'il y a une convergence, mais on n'a pas de métrique vraiment pour mesurer cette convergence. Et on a vu que c'était un problème parce que, comme les algorithmes ne sont pas optimaux, on a beaucoup de mal à savoir si on a des belles images, mais éventuellement, on n'a pas une convergence des distributions de probabilité. Ici, on va véritablement calculer la vraisemblance. Donc, l'idée, c'est que l'opérateur T, évidemment, on ne le connaît pas, il va falloir le calculer, et on va le calculer à partir des paramètres. Les paramètres, typiquement, ils vont être les paramètres de chacun des petits opérateurs T1, T2, TK. D'accord ? Et puis, il faut calculer l'opérateur T qui est le meilleur possible. Pour ça, on va calculer la vraisemblance, ou moins la vraisemblance, c'est-à-dire l'espérance par rapport à la distribution des données, du log de la probabilité. Donc c'est toujours cette idée où ce qu'on veut, c'est trouver le θ tel que tous les données probables par rapport à la vraie distribution de probabilité vont donner un P de θ de x le plus grand possible. Et donc ce qu'on veut, c'est maximiser la vraisemblance ou minimiser moins la vraisemblance. Et on a vu que ça, c'était une mesure de la distance de Kullback entre la vraie distribution et Pθ à une constante près qui est autre que l'entropie de la distribution. Donc, minimiser ceci, c'est minimiser la divergence de Kullback. Alors, ici, on peut maintenant remplacer Pθ de x par l'expression si jamais j'ai un transport, et si j'ai un transport, ceci ça va être l'espérance donc par rapport à x. Donc on va avoir ici Pθ de x, c'est θ jacobien de dθ. D'accord ? C'est la mesure qui a été transportée. Et cette mesure qui a été transportée, donc si je prends le log, je vais trouver le log de Pz de x qui a été transporté dans le domaine des z, et puis évidemment, plus le log du déterminant, du module du déterminant, et tout ça, c'est en espérance par rapport à la vraie distribution des données. D'accord ? Et donc, ce qu'on veut, c'est minimiser ceci. Alors, ceci, on va le faire avec une descente de gradient. Si on a des données, eh bien, on va remplacer cette espérance par une somme sur toutes les données, somme sur i, de cette expression prise en xi. Donc, log, je vous donne le premier, p de z, tθ moins 1 de xi, plus pris en xi. D'accord ? Donc, on remplace l'espérance par une moyenne empirique sur toutes les données de la base d'entraînement. Donc, pas de problème, ça, on peut le faire. Évidemment, quand on va calculer une descente de gradient, la difficulté, c'est que potentiellement, ça, c'est pas convexe et ça est typiquement pas convexe. C'est là où on croise les doigts et on espère que ça va converger vers un minima local qui est relativement profond. Mais au moins, on a une mesure de la vraisemblance. Ça veut dire qu'on peut comparer deux modèles et voir si un modèle est plus précis qu'un autre modèle. D'accord ? Donc ça, c'est un des premiers gros avantages de cette approche. Le deuxième avantage, c'est qu'on a donc cet opérateur de transport, mais aussi l'inverse. Et l'inverse, ça nous définit une variable latente et on verra qu'on pourra manipuler cette variable latente. Alors, comment on fait ça ? Donc, le principe de base, c'est qu'on va factoriser l'opérateur T. Donc, si je commence avec simplement deux opérateurs, donc je vais avoir d'abord T1 que je compose ensuite avec T2. Donc, évidemment, l'inverse, ça va être T1 moins 1 rond T2 moins 1. Puis ensuite, je peux calculer le déterminant. Je vais en avoir besoin de J moins 1 de J de T moins 1 jacobien pris en X, et puis ça va être le déterminant du jacobien du premier T moins 1 pris en T2 moins 1 de X fois le déterminant de T2 moins 1 pris en X. Donc il y a un produit, donc ça c'est complètement standard, hein, c'est, vous avez un produit de matrice, ça va être le produit des déterminants. Et donc si jamais je regarde maintenant une chaîne qui est plus grande, donc j'ai Z qui va rentrer dans T1, qui va me produire une variable Z1, qui va rentrer dans T2, qui va produire une variable Z2, etc., jusqu'à une variable ZK-1, qui va rentrer dans TK, qui va me donner X. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Ben, ici, j'ai besoin d'exprimer l'opérateur inverse. Donc, l'opérateur inverse, ça va être la cascade des opérateurs inverses. ZK-1, etc., T2-1, Z1 et Z. Et puis maintenant, on peut écrire de la même manière le... Donc ça va m'exprimer cette quantité-là. Maintenant, il faut que j'exprime le déterminant. Et comme c'est le log des déterminants, ça va me donner une somme, puisque je vais avoir le log du déterminant de J de T-1 pris en X. Et ça va être une cascade de tous les déterminants. Donc, le premier, je vais avoir le log du déterminant de J de TK-1 pris en X. Et puis ensuite, le suivant, le log du déterminant de J de TK-1 pris non plus en X mais en ZK-1 etc. Et vous avez la somme de chacune des composantes dans toutes les variables. Donc ce qu'on voit, c'est que le déterminant, il se calcule facilement à condition de pouvoir facilement calculer les déterminants de chacune des composantes. Donc la difficulté d'un point de vue calcul, là-dedans, ça ne va pas être tellement T, θ, ça va être un opérateur paramétré qui va être défini. PZ, typiquement, ça va être une gaussienne, donc ça va être facile à calculer. Ce qui va être compliqué à calculer, c'est ça, c'est-à-dire potentiellement chacun de ces déterminants. Donc tout le problème de ces normalizing flows, ça a été de définir des opérateurs suffisamment riches pour pouvoir faire des transports qui ont beaucoup de flexibilité, mais en même temps où on peut facilement calculer ces déterminants. Alors, d'une façon générale, un déterminant, là, vous avez des très grandes matrices, d'accord ? Parce que la dimension de ces matrices, c'est la dimension des variables au carré. Or, les variables, elles sont en dimension d, d'accord ? On reste dans la dimension de x, donc vous avez des matrices qui sont absolument énormes. Donc, vous ne pouvez pas calculer toute la matrice, puis ensuite, gentiment, calculer le déterminant. Ce qu'il va falloir, c'est prendre des opérateurs pour lesquels les déterminants peuvent se calculer beaucoup plus facilement. Or, les matrices dont on calcule facilement les déterminants, c'est essentiellement les matrices triangulaires. Parce que si vous avez une matrice qui est triangulaire, alors le déterminant, eh bien, il s'obtient ou supérieur ou inférieur, simplement comme le produit des éléments sur la diagonale. Donc toute l'idée, c'est de définir des opérateurs T-1 qui ont des jacobiens qui sont triangulaires. D'accord ? Et c'est ça qui est essentiellement a été fait autour de l'utilisation des réseaux de neurones. Et donc il y a cet algorithme que je vais décrire parce que Glow, qui a été disons, qui correspond à un papier qui a été publié par deux auteurs, Kigma et Dhariwal, et qui utilise deux types d'opérateurs. D'abord, ce qu'on appelle des couplages affines. Alors, le couplage affine, il va consister donc à construire des jacobiens qui vont être triangulaires, plutôt triangulaires supérieurs. Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la variable x, qui est en dimension d, et on va la diviser en deux variables. Donc le vecteur, pardon, on va le diviser en deux vecteurs x0 et x1. Donc celui-là va un peu... Non, c'est un premier vecteur rd1, où d0 plus d1, ça fait d. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une transformation très simple sur x. Quoi, relativement simple. Donc l'opérateur tθ-1, qui est l'opérateur ici important pour calculer la vraisemblance, eh bien, il va avoir deux composantes. La première composante, ça va être l'identité, donc ça veut dire qu'il va préserver x0. Et la deuxième composante, ça va être un opérateur affine sur x1, dont les coefficients vont dépendre de x0. Là, j'écris ça sous forme d'un produit de Hadamard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque coefficient de x1, c'est un vecteur, est multiplié par un scalaire, et ce scalaire va dépendre de x0. Mais ça peut être une fonction potentiellement compliquée de ce vecteur x0. Et puis, on va prendre une transformation non pas linéaire, mais affine, c'est-à-dire qu'il va aussi y avoir un biais qui va être introduit, qui va aussi dépendre de x0. Donc ce vecteur, il est de taille d1. D'accord? Donc cet opérateur-là, bah, il s'inverse facilement. Tθ de z, bah, il a deux composantes. La première, comme ça c'est l'identité, l'inverse, bah, ça va être toujours l'identité, c'est la première composante z0. Et donc j'écris ici z sous la forme de z0, z1 dans rd0 et r1. Donc la première composante, elle ne bouge pas. Et la deuxième composante, bah, il faut que j'enlève cette composante et celle-là. Donc je vais commencer par prendre z1, je vais soustraire la translation qu'on a pris ici, et comme x0 c'est z0, ça va faire tθ de z0, et puis ensuite il faut que j'élimine, j'inverse ceci, donc je vais multiplier par l'inverse de ceci, c'est-à-dire e puissance moins s de θ de x0. Donc là vous voyez que vous avez un opérateur qui est facilement inversible, et puis maintenant, on peut calculer le jacobien de cet opérateur. Le jacobien de cet opérateur, comme là, c'est l'identité, ça va être 1 sur la diagonale. Et puis, donc, vous avez votre opérateur qui est comme ceci, avec la composante x0, x1. Ici, je vais avoir 1. Et puis ici, je vais avoir quelque chose qui va être diagonale, triangulaire supérieur. Et sur la diagonale, ce que je vais avoir, c'est les coefficients de ceci sur chacune des composantes de x1. Donc, si je regarde le jacobien, ça va être le produit. Pour x0, toute la composante sur x0, c'est des 1. Donc, ça va me donner 1. Et puis là, j'ai les e puissance s θ de x0 dans la position i. Si je suis ici. Donc, si je regarde le jacobien de l'inverse de θ pris en x, donc le déterminant du jacobien, prends le module, ça va me donner les produits des e puissance sθ de x0 coordonnées i. coordonnées i étant les d1 coordonnées de x1. Et si je prends le log, ici, le log du produit, donc le combien de coordonnées i j'ai, ben, j'en ai d1, c'est toutes les coordonnées sur x1. Donc si je prends le log du produit, ça va donc me donner la somme de i égale 1 à d1. Le log de ceci, ça va me donner le sθ de x0. Sθ de x0, à nouveau, c'est un vecteur dont les dimensions, c'est la dimension de x1, parce que je fais un produit avec x1, et je prends la coordonnée i de ce vecteur, ce que je vais écrire comme ça. Et donc, voilà le calcul explicite du déterminant, du log du déterminant, donc c'est facile à faire. Sθ et Tθ, qu'est-ce qu'on va prendre ? Eh bien, des réseaux de neurones. Donc, on va prendre des réseaux... Ça va être des réseaux profonds. Alors, le problème de cette transformation, en tout cas sa limitation, c'est qu'il faut au départ découper x en deux parties et on va traiter une seule des parties. Donc évidemment, il va falloir remélanger le résultat pour que x0, la composante de x0 puisse elle aussi être transportée. Et donc ça, c'est l'idée de l'algorithme, c'est de cascader ce type d'opérateur avec un type d'opérateur qui va mélanger les coordonnées. Alors comment on va faire ce mélange ? Avec des convolutions, donc c'est des opérateurs qui sont linéaires, ce qu'on appelle dans les réseaux de neurones des convolutions 1-1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais prendre le cas d'une image. Dans un réseau de neurones, quand vous avez une image en entrée, les couches intermédiaires du réseau de neurones, ça va être des blocs d'images. Donc votre image, elle a une certaine largeur, elle a une certaine hauteur, et puis il y a un certain nombre de canaux. Ça, c'est les canaux qui correspondent aux différents filtres dans le cas d'un réseau de neurones. Donc l'idée, c'est que on va prendre les, on va splitter, donc le x, il est ici, on va le diviser en deux parties, et ici, je vais prendre d0 égale d1 égale d sur 2. Donc, comment on va le diviser ? On va le diviser le long des canaux, comme ceci. Donc, il va y avoir une partie, ça va être ici x0, et une partie, ça va être ici x1. Et on va appliquer cet algorithme. Ensuite, on a besoin de remélanger cette composante et cette composante pour itérer. Et donc, comment on va remélanger ? Eh bien, on va faire prendre un opérateur qui va agir le long des canaux, ici, et maintenant, il va agir le long des canaux, donc je vais l'appeler Wθ, de façon identique pour n'importe quel pixel. Ici, que ce soit ici ou ici, dans ce cube, l'opérateur va agir le long des canaux comme un opérateur convolutionnel. Un opérateur convolutionnel 1-1. Donc ça, c'est un opérateur linéaire Wθ, mais comme il agit de façon identique en tout point, spatialement, c'est un opérateur de convolution, et c'est ce qu'on appelle un opérateur 1-1 dans le langage de machine learning, parce que le support spatial est de taille 1. D'accord ? Mais il agit de façon linéaire le long des canaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici, je vais cascader le premier opérateur que j'avais défini, et c'est à nouveau l'idée de ces normalizing flows, c'est de cascader toute une série d'opérateurs, avec un nouvel opérateur qui va, donc si ça, je vois ça comme la variable i, et là comme une variable j, eh bien, ce que ça va prendre, c'est en xi, xj, donc en un certain point, ça va transformer ce vecteur le long de cette coordonnée de canaux, donc ça va être Wθ de x, i J. Donc ça, c'est d'une certaine manière la nouvelle variable Z que je calcule. D'accord ? Donc là, ici, ce que je fais, c'est un opérateur qui va mélanger les valeurs le long des canaux. Donc, ça, c'est au départ, je définis l'opérateur inverse directement parce que c'est toujours l'opérateur inverse qui apparaît dans le likelihood. Donc, Tθ de X, Ij, ben, ça va être l'opérateur linéaire inverse. Donc, ce que j'impose simplement, c'est que cet opérateur linéaire soit inversible. Le jacobien, ben, comme c'est un opérateur linéaire qui est identique convolutionnel, je vous laisse vérifier que le jacobien de Tθ moins 1 pris en x, donc, si je prends le déterminant du jacobien, ça va être tout simplement le déterminant de W fois H, c'est-à-dire la taille, le nombre de lignes fois le nombre de colonnes fois le déterminant. C'est un opérateur linéaire, donc le jacobien, ça va me donner directement Wθ, et donc je vais avoir le déterminant de Wθ. Le module du déterminant de Wθ. D'accord ? Donc, comme ici, on a une matrice qui est relativement petite, parce que le nombre de canaux, c'est, disons, O plus 512, ça, c'est calculable. D'accord ? Je ne me retrouve pas avec des images de taille D au carré. Voilà. Donc, l'algorithme, il va faire une cascade. On va partir de X. La première chose qu'il va faire, c'est une espèce de normalisation qu'ils appellent activation-normalisation. Alors, une normalisation, en fait, ça correspond essentiellement à ce type d'opérateur où Wθ est un opérateur qui est diagonal. Donc, ça va à chaque fois faire une multiplication avec chacune des composantes Xi, J plus un biais. Donc, l'idée, c'est qu'on fait une normalisation. Ça, c'est quelque chose de complètement classique dans les batch normes. D'accord ? Comme on suppose que l'image a plus ou moins une propriété de stationarité, la normalisation, elle est faite le long des canaux. Donc, il y a déjà une normalisation. Ça, c'est un premier opérateur qu'on donne. À nouveau, cet opérateur est de ce type-là. Donc, le jacobien va s'écrire comme ça. Sauf que ici, le déterminant, eh bien, ça va être tout simplement le produit des coordonnées de Sθ. D'accord ? Parce que vous avez un opérateur qui est diagonal ici. Et puis ensuite, on va faire rentrer ceci dans un opérateur inversible. Et ensuite, une fois qu'on a mélangé les canaux, on va appliquer l'opérateur de couplage affine. Et on va répéter. D'accord ? Ça, c'est le bloc de base de cet algorithme. Et ensuite, on répète. Sachant que ici, j'ai deux réseaux de neurones potentiellement qui correspondent au Sθ et Tθ que j'ai optimisés. Et ici, j'ai simplement un opérateur linéaire. Les deux réseaux de neurones, ça, typiquement, ils ont deux, trois couches. Ils ne sont pas très profonds. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on lance l'optimisation. L'optimisation, elle va consister à minimiser moins la vraisemblance sur les θ, on fait la descente de gradient et on regarde ce qui se passe. Et ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Voilà le type d'image sur une base de données de visage qui est similaire à celle que je vous ai donnée. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, on peut comparer des algorithmes. Ça, c'est GLOW. Donc ça, évidemment, c'était dans la publication du papier GLOW. Et du coup, les résultats sont évidemment meilleurs que les concurrents. Et donc, versus une autre factorisation des opérateurs T. Et vous voyez qu'effectivement, ils arrivent à montrer qu'ils améliorent le likelihood qui devient plus petit. Et vous pouvez voir ici des exemples d'images. Alors, ça marche pas mal, mais ça n'atteint pas l'état de l'art. Vous pouvez le voir dans la qualité des images. Le background, il n'est pas reproduit. Là, si vous regardez par exemple ici, il est approximé. La qualité des cheveux, pareil, est à ses limites. Et on peut voir d'autres exemples. Ça, c'est deux bases de données. À gauche, c'est les chambres à coucher. À droite, c'est une base de données avec des églises, etc. Alors, c'est pas nul, hein, ça reproduit, on arrive à reconnaître des structures, mais il n'y a pas du tout la qualité qu'on obtient avec un GAN. Alors, pourquoi ? Parce que l'opérateur T n'est pas assez riche. D'accord ? Ça, c'est le problème qui apparaît ici. Et en fait, on y va un peu au pif, mais non, pas exactement. Mais disons que on a construit les opérateurs TK pour qu'ils soient les plus riches possibles, tout en garantissant le fait que leur déterminant se calcule facilement. Mais en faisant ce tronçonnage comme ceci, on se retrouve avec des problèmes de stabilité qu'on a neutralisés ici, et on n'a aucune garantie que l'opérateur T soit suffisamment riche pour reproduire le type de distribution qu'on veut reproduire. Alors, il y a quand même un point aussi que je vais en venir, qui est malgré tout aussi intéressant dans le cadre de cette approche par normalizing flow discrétisé, c'est qu'on peut manipuler les images. Parce que, comme je l'ai dit, on peut à la fois avoir le transport, donc passer d'une réalisation de Z à une réalisation de X, c'est-à-dire créer l'image, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est partir d'une image X et la renvoyer dans cet espace latent. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que la distribution de probabilité sur l'espace latent, ici, c'est une gaussienne. Donc, c'est une distribution qui dit que, grosso modo, la métrique naturelle entre, disons, si je le fais sur Z, c'est P2Z, sur un vecteur Z, ça va être la métrique euclidienne. Donc, du coup, dans l'espace latent, la métrique euclidienne, on va pouvoir l'utiliser pour regarder des distances entre des images. Donc, si j'ai envie de passer d'une image X0 à une image X1 et de rester sur le support de ma densité, donc j'ai envie de me balader comme ça, le faire dans ce domaine-là, ce n'est pas évident. Ça veut dire quoi, par exemple ? Ça veut dire, c'est ce qu'on obtient là, vous voulez passer de l'image de l'acteur à gauche à l'acteur à droite, avec une forme d'interpolation. Si vous aviez fait ça dans l'espace des images sous forme d'interpolation linéaire, l'image, la moyenne des deux, ce n'est pas un visage, c'est un mélange de visages. Si jamais vous faites ça tout en restant sur le support de la distribution, tous les points intermédiaires vont être des images de visage. Et comment on fait ça ? Eh bien, on va prendre X1, on le transporte ici, X0 aussi, donc je vais avoir ici T de X0, et là T de X1. Donc, j'ai transporté X0, j'ai obtenu T de X0, X1, j'ai T de X1, ça c'est des variables Z. Maintenant, dans ce domaine-là, comme j'ai une gaussienne de grande distribution, de grande dimension, si je fais, je pourrais me balader le long de la sphère ou carrément faire une interpolation linéaire. C'est-à-dire, je peux, par exemple, calculer alpha ceci plus 1 moins alpha ceci pour alpha entre 0 et 1. Et je vais obtenir des images intermédiaires ici. Pardon, des points Z intermédiaires. Donc ça va ressembler à du bruit. Je fais la moyenne des deux bruits, j'obtiens quelque chose qui ressemble à du bruit. Et maintenant, je reviens dans le domaine. Mais ce que je sais, c'est que si je reviens par l'opérateur T-1, je vais me retrouver à nouveau dans un point qui est un point du support de la distribution, c'est-à-dire une vraie image. Donc ce que je vais faire, c'est prendre cette moyenne et appliquer T-1. D'accord ? Et là maintenant, je vais obtenir une image X alpha. OK ? Donc l'idée, c'est que interpoler dans l'espace image ici, c'est très compliqué parce que les géodésiques, si on pense à ces points comme étant des points d'une surface, il aurait fallu suivre les géodésiques. Ça, c'est très compliqué. Par contre, les géodésiques ici, elles sont simples. Alors là, je les ai approximées par une droite, mais j'aurais pu prendre un véritable arc de cercle. Et à ce moment-là, je reviens et j'obtiens les images que vous avez là-haut. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'on peut partir d'une image qui est ici, arriver à l'image ici, et la déformation est très régulière. Idem pour une femme qui se transforme en une autre femme, et ici le cas. Donc ça, c'est les manipulations typiques qu'on peut faire avec une fois qu'on a un espace de variables latentes comme ceci, sur lequel on a une métrique qui est naturelle, comme la métrique euclidienne. L'autre type de chose qu'on peut faire, c'est ajouter des structures. Par exemple, on a envie ici de passer d'un visage qui ne sourit pas à un visage qui sourit, ou d'un visage où la peau est pâle à un visage où la peau est plus foncée, etc. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, si je prends une caractéristique, par exemple, sourire ou pas sourire, ben, à nouveau, j'ai ma distribution. Je peux regarder où sont les... Donc, je peux prendre ma base de données avec les images qui sourient. Et ça peut être assez compliqué. Les images qui sourient peuvent être réparties de façon un peu compliquée, typiquement là-dedans. Et puis, je vais prendre les images qui ne sourient pas. Quelque chose comme ça. Et puis ensuite, je les renvoie dans l'espace latent avec l'opérateur T-1. Et ce que j'espère, c'est que dans cet espace latent, bah, les images qui sourient, elles sont plutôt regroupées dans un endroit qui est différent des images qui ne sourient pas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont différentes. Donc, on peut espérer qu'il y ait une forme de séparation. Cette séparation, comment on peut la représenter ? En prenant le centroïde, tout bêtement. Donc là, je vais avoir un Z pour les positifs, pour celles qui sourient, qui est le centroïde ici. Et puis là, je vais avoir un Z négatif, c'est le centroïde des images qui ne sourient pas. OK ? Maintenant, je prends une image quelconque qui est dans mon support. Et je veux la transformer en une image qui va plutôt sourire. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'envoyer dans l'espace. Désolé, ça devient un peu sale. Et ce que je vais faire ensuite, c'est l'envoyer plutôt dans la direction des images qui sourient. Mais comme à nouveau, je suis dans un espace euclidien, pour faire ça, bah, il suffit de se déplacer vers cette direction. Alors, cette direction, c'est quoi ? C'est ce qui m'amène depuis une image qui ne sourit pas vers une image qui sourit. Autrement dit, si je réécris ça, j'ai pris mon image X, j'ai appliqué T-1, attendez, là je me suis planté. C'était moins 1 ici, et T ici. OK ? On commence par revenir, puis ensuite on repart. Donc, je prends X, je commence par appliquer T-1, donc je me ramène dans l'espace latent, et puis ensuite, je vais la faire sourire un petit peu en la déplaçant dans la direction du vecteur qui m'amène depuis les images qui ne sourient pas vers les images qui sourient. C'est-à-dire, je vais la déplacer dans cette direction-là et la quantité du déplacement, ça peut être un facteur alpha que je peux quelconque. Et puis ensuite, je reviens sur x et à nouveau, j'ai un nouveau x alpha. OK ? Ben, si je fais ça, voilà ce que ça donne. C'est ce que vous avez ici. Vous avez là une image qui ne sourit pas. Donc pour ça, il faut avoir des données labellisées. D'accord ? Parce qu'il faut que j'ai des données, c'est-à-dire des images où je sais qu'elle sourit et qu'elle ne sourit pas, de manière à pouvoir calculer ces centroïdes. Donc si vous avez de telles images, à ce moment-là, ensuite, vous pouvez prendre une autre image et augmenter son sourire. Vous pouvez passer de cheveux blonds à des cheveux pas blonds, etc. Donc voilà, ça, le type de transformation. Donc ça, c'était le premier papier, GLOW, qui montrait qu'on pouvait faire ça. Et évidemment, ensuite, il y a eu des dizaines de papiers qui ont amélioré ce genre de choses. Mais ça, c'est le principe qu'on peut obtenir une fois qu'on a été capable de faire ce transport sur la distribution. OK. Donc, à ce stade, essentiellement, on a une méthode, on a une approche qui, mathématiquement, est beaucoup mieux maîtrisée que les algorithmes de GAN, mais qui a une difficulté, c'est que, d'une certaine façon, ce n'est pas assez riche, c'est-à-dire qu'en tout cas, on a beaucoup de mal. On sait très bien qu'on peut toujours factoriser l'opérateur T, mais quand on fait cette factorisation et qu'on impose que le déterminant du jacobien se calcule facilement, on a du mal à trouver des opérateurs paramétrés qui nous permettent de faire des transports efficaces. Et c'est là qu'il y a une nouvelle idée qui est introduite. Et comme c'est souvent le cas, cette nouvelle idée, ben, elle revient dans le passé, elle s'inspire de choses qui ont été faites dans le passé. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, OK, on va passer en continu. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que ce transport, il va être discrétisé, eh ben, on va appeler T la variable, et si ça, je le vois comme delta T, eh ben, je vais laisser delta T tendre vers zéro, donc je vais faire une cascade d'opérateurs et de plus en plus d'opérateurs jusqu'à arriver à une cascade continue. Faire ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on passe d'un flow discret à un flow continu. Alors. Et donc, au lieu d'avoir une cascade d'opérateurs sur ETK, on va avoir une équation différentielle. Donc, on va tomber dans le monde. Alors, je l'écris en anglais, Ordinary Differential Equation, équation différentielle ordinaire EDO. En français, EDO. L'inverse. OK ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que X, maintenant, je vais le faire bouger de façon infinitésimale, et donc, on va tomber tout simplement sur une équation de transport. C'est-à-dire que ça va être la vitesse de x au point t. Alors, je vais écrire D2. Je vais l'écrire comme ça, généralement, la variable t sera plus facile. Et donc, on a une équation classique en physique. Vous avez une particule qui va bouger, et à chaque instant, vous calculez son mouvement en calculant sa vitesse. Alors, si vous écrivez une discrétisation de l'air de cette équation, vous allez avoir x en t plus delta t moins x de t, ça va être delta t fois vt de x en t. Maintenant, si vous pensez à la vitesse comme étant l'objet qu'on va devoir calculer, parce que la vitesse, maintenant, ça correspond au transport, sauf que c'est un transport infinitésimal. Ceci, ça va aussi dépendre d'un paramètre. Et donc ça, si je passe xt donc de l'autre côté, si ceci s'est calculé par une couche ou quelques couches d'un réseau de neurones, ça ressemble à un réseau résiduel, un ResNet. Parce que la couche d'après, elle va s'obtenir à partir de ce qu'il y avait avant par une addition d'une composante. Et ça, c'est ce qu'on appelle une skip connection, c'est-à-dire vous avez vos xt, vous avez votre transformation ici, et puis la skip connection qui vient ici, et vous avez l'addition. D'accord ? Et ça, c'est le vtθ qui va arriver ici. D'accord ? Donc ça, si on cascade ça, ce qu'on obtient, c'est un ResNet. Et donc, l'idée, c'est de se dire, finalement, un ResNet, ça peut être vu comme une discrétisation, puisque vous avez un certain nombre de ces éléments dans le réseau, d'une équation différentielle. Si on passe à la limite, en fait, on peut penser à un ResNet comme implémentant une équation différentielle ordinaire. Et ça, c'est l'idée de ces réseaux continus, en anglais neural ODE, qui ont été publiés, commencé à être étudiés dans les années 2021-2022. Chen était le premier auteur. Et donc l'idée, c'est de voir du coup un réseau de neurones comme étant un transport dans la limite du continu, ce transport étant défini par une équation différentielle ordinaire. Et donc la question de recherche a été, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tous les réseaux de neurones peuvent s'écrire? Tous les réseaux de neurones qu'on entraîne peuvent être vus comme des approximations d'équations différentielles ordinaires? Et la réponse est non. C'est-à-dire que, et on verra notamment juste après qu'il peut y avoir des complexités qui rentrent là-dedans. Mais malgré tout, c'est un modèle intéressant qu'on va explorer. Alors, une fois qu'on a un transport qui va nous définir, être défini par cette équation, je vais pouvoir regarder la distribution de probabilité pt de x, et la distribution de probabilité pt de x, tout comme ici, elle a été transportée, elle va être transportée par cette équation. Et ce que j'ai envie, c'est de calculer l'évolution de pt de x. Et là, on tombe sur un vieux sujet est fondamental en physique, c'est vous avez des particules qui vont être transportées par un flot qui est dû à des forces, et ces particules, elles vont définir une densité de probabilité qui va évoluer, et la question, c'est quelle est l'équation d'évolution de distribution de probabilité. Ça va être, on va le voir, elle-même une équation différentielle, et c'est l'équation de Liouville. Alors, Liouville, donc je vous avais dit dans ce sujet, ce qui est intéressant, comme souvent en maths, c'est qu'on retombe sur des choses profondes et anciennes quand on commence à regarder ces sujets. Donc lui, c'est début du 19e, 1809-1882. En plus, dans ce contexte, il est Liouville. Donc Liouville, c'est un mathématicien qui a travaillé sur énormément de domaines, l'analyse complexe, la topologie différentielle, la physique mathématique, l'astronomie, et il se trouve que c'était un professeur du Collège de France, donc en 1850. Donc il était ici. Et l'équation de Liouville, c'est vraiment l'équation de base pour comprendre l'évolution de beaucoup de phénomènes en physique. Alors, il y a un domaine, par exemple, où ce genre d'équation joue un rôle fondamental, c'est dès que vous avez un système chaotique, vous ne pouvez pas vraiment prédire la trajectoire des particules individuellement. Parce que dès que vous avez une petite erreur sur la condition initiale, la trajectoire va diverger. Donc au lieu de regarder des trajectoires de particules individuelles, ce qu'on fait, donc ça c'est par exemple le cas de la météo, cas de la météo, vous avez une équation qui est l'équation de Navier-Stokes. Vous allez avoir des instabilités dès qu'il y a de la turbulence, et donc vous allez avoir des divergences. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde non pas une particule, mais un ensemble de particules. Et cet ensemble de particules vont avoir des trajectoires qui éventuellement vont diverger, et vous allez pouvoir regarder la distribution de probabilité dans le futur de toutes ces particules. Typiquement, c'est ce qu'on fait en météorologie. En météorologie, depuis à peu près les années 90, on essaye non plus de prédire le temps qu'il va faire demain très précisément. On pourrait se dire, OK, je prends la condition initiale, pression, température, etc., et j'envoie l'équation de Navier-Stokes, sauf que les conditions initiales, il faut les calculer sur tout le globe, avec une précision potentiellement infinie. Or, des stations météo, il n'y en a pas tant que ça, donc on a en plus des mesures bruitées, donc beaucoup d'incertitudes sur les mesures. Donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie l'équation de Navier-Stokes pour calculer une prédiction, puis ensuite on perturbe les mesures, sachant qu'il y a une incertitude sur les mesures, on recalcule la solution, et typiquement dans les années 90, on en calculait comme ça une cinquantaine. Donc vous avez 50 particules qui correspondent à des modifications des conditions initiales qui vont vous donner le temps qu'il peut faire demain. Et ça peut largement changer, il peut pleuvoir, ne pas pleuvoir, etc. Et typiquement, dans le cas de la météo, au-delà de 15 jours, ça devient, l'incertitude devient absolument énorme. D'accord ? Donc ça, c'est un problème de divergence d'exposants de Lyapunov. Quand vous avez un système chaotique, les trajectoires vont se séparer de façon exponentielle. Donc, la question, c'est comment cette équation sur la proba se relie à la vitesse et pourquoi ça va être potentiellement plus simple que de travailler en discrétisé. Le point central qu'on va voir, c'est que dès qu'on passe en continu, le déterminant, il va disparaître, ou plutôt, il va pouvoir être calculé de façon tout à fait explicite par rapport au champ de vitesse. Alors, la première chose quand même, je vais commencer par la base, c'est est-ce que cette équation admet une solution unique? Et ça, c'est le théorème de Cauchy-Lipschitz. Et je vais le démontrer rapidement parce que typiquement, c'est ce qu'on va faire constamment, c'est calculer un point fixe. C'est-à-dire la solution, elle se calcule à partir d'un opérateur sur lequel on calcule un point fixe, et ça c'est toujours la technique qu'on va utiliser, y compris pour calculer les solutions, pour échantillonner des distributions de probabilité. Donc, le théorème, c'est que si je regarde le problème de Cauchy, c'est-à-dire le problème où je définis mon ODO donc à partir de la vitesse, et que j'impose la condition initiale xt égale x0. Et si j'impose en un certain t0, et si j'impose que vt est Lipschitz sur un intervalle qui contient x0, t0, pardon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde la norme de Vt moins donc c'est Vt de x moins Vt de x prime, ça va être plus petit qu'une certaine constante k, norme de x moins x prime. Donc ça veut dire que les champs de vitesse sont réguliers, presque partout différenciables essentiellement, avec une dérivée qui va être bornée par la constante k. Donc ce qu'on impose, c'est que le champ de vitesse soit régulier. À ce moment-là, il existe une solution. X de t dans un intervalle qui contient T0. Alors, ça se démontre assez facilement, mais ça va permettre de voir qu'il y a un lien très direct avec des calculs de points fixes. Donc, a priori, une solution, on va la calculer en intégrant cette équation, c'est-à-dire on va partir de x0 et puis ensuite on va suivre le champ de vitesse, on va intégrer et donc on va avoir du vt de xt dt. Ok, donc c'est comme ça qu'on aimerait écrire la solution. La question, c'est est-ce qu'il existe un x de t qui satisfait cette équation. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va définir l'opérateur tx. Qui a un x va tx t va associer cette intégrale. Et ce que je voudrais, c'est que ceci soit égal à xt. D'accord ? Je peux toujours partir d'un x, calculer cette intégrale. Et ce que je voudrais, à partir du passé, je voudrais que ceci me redonne la valeur de x en t. Et donc, on va regarder si un tel opérateur existe. Ça veut dire que xt est un point fixe de l'opérateur t. Et ce genre de solution avec un point fixe, on peut l'obtenir si l'opérateur t est contractant, tout simplement en itérant sur l'opérateur t. Donc ce qu'il va falloir typiquement s'assurer, c'est que l'opérateur t va satisfaire une propriété du type t de x, la distance entre t de x et t de x prime, elle est plus petite qu'un facteur gamma qui est strictement plus petit que 1, la distance entre x et x prime. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est la différence entre t de x, 1, si je prends un vecteur, moins x2. Donc la condition initiale, c'est toujours la même, on part toujours de x0, donc ça va vous donner 0, je vais prendre la normale infinie. Ça va être l'intégrale, donc ça va être plus petit que... Alors, déjà je vais écrire la différence. La différence, c'est l'intégrale de t0 à t de vt pour le premier vecteur à chaque instant t moins vt pour le deuxième vecteur à chaque instant t dt. Donc si je prends maintenant la normale infinie de ça, c'est plus petit que l'intégrale des normales infinies. Je peux mettre la norme à l'intérieur et j'obtiens une inégalité. Mais maintenant, ce que je sais, c'est que j'ai une inégalité qui est due au fait que Vt est Lipschitz. Donc ça, c'est plus petit que k fois l'intégrale entre t0 et t de x1t moins et maintenant, ce qu'on peut prendre, c'est le sup sur t. Et à ce moment-là, alors, excusez-moi, parce que la norme, excusez-moi, là, j'aurais pas dû. C'est la valeur absolue. C'est la norme du vecteur, pardon. Et ensuite, je prends le sup sur t. Et donc, si je prends le sup sur t, je vais avoir la norme à l'infini. Donc maintenant, je vais prendre le sup sur t. Attendez, je vais écrire en deux temps. J'ai k fois l'intégrale entre 0 et t de la norme de x1t moins x de t dt. Et ça va être k fois la longueur de l'intervalle, plus petit, t moins t0. x1
moins x2. La normale infinie étant prise sur t. Et donc, si je me mets sur un intervalle qui est plus petit qu'une certaine taille a, à ce moment-là, si k a est strictement plus petit que 1, c'est ma constante gamma, je vais bien avoir que la transformation de mon vecteur est plus petite que une constante plus petite que 1 fois la distance des deux vecteurs. Donc, du coup, ce qu'on montre ici, c'est que sur un intervalle suffisamment petit, l'opérateur va être contractant. Donc, si j'itère dessus, je vais converger vers un point fixe. Et ce point fixe, ça, c'est le théorème de Banach qui nous dit le point fixe va être unique. Et donc, on obtient l'existence de la solution dans l'intervalle. Et on peut démontrer qu'on a l'existence d'une solution maximale unique aussi. Donc, le point, c'est que ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'on a une contrainte quand même qui est assez forte sur le champ de vitesse pour effectivement se retomber sur le cas du normalizing flow, c'est-à-dire bien avoir un transport qui va être un difféomorphisme. Alors maintenant, une fois qu'on a ceci, on va regarder comment la distribution de probabilité évolue. Et l'idée, c'est que on va essayer de définir des champs de vitesse qui vont permettre d'avoir des transports des distributions de probabilité qui sont suffisamment flexibles pour pouvoir obtenir des images comme celles qu'on a obtenues ou n'importe quelle distribution. Alors, la première chose maintenant, ça va être de voir l'évolution de la distribution de probabilité, et c'est là qu'on va tomber sur l'équation de Liouville, qui est le transport dans le cas continu. Et en fait, on va faire la même chose que ce qu'on a fait lorsqu'on a calculé l'expression de l'opérateur push-forward. Ça a consisté à regarder, si je prends un certain nombre de particules dans un domaine, dans quel domaine elles vont se retrouver, dans quelle va être la taille du domaine dans lequel elles vont se retrouver, et donc quelle est la distribution de probabilité dans l'autre domaine. Là, on va faire la même chose au sens où on va écrire une équation de conservation sur les probabilités. Le point central, c'est que j'ai des particules qui vont bouger et donc elles vont se retrouver ailleurs, donc la masse, elle va être conservée. Donc, le théorème qui est derrière, sous hypothèse qu'il y a une solution, c'est que là, l'évolution, donc l'équation de Liouville, de la distribution de probabilité, elle va être donnée par la divergence. Alors la divergence d'un vecteur c'est donc la somme des toutes les dérivées par rapport à toutes les composantes du vecteur. Si j'ai un vecteur de dimension d. D'accord ? Et donc j'ai la divergence de la vitesse qui va être multipliée par la distribution de probabilité égale 0. Alors, avant de démontrer l'équation, on va regarder ce que ça veut dire. Donc, ce terme-là, donc c'est une dérivée d'un produit. La dérivée d'un produit, je peux l'écrire comme la somme des deux dérivées. Ça, je peux l'écrire comme étant, si je fais porter la dérivée sur V de t, comme je vais plutôt d'abord faire porter on va l'écrire comme ça, je fais porter d'abord la dérivée. Donc la divergence, elle va porter sur Vt de x, et là, Pt de x, c'est un scalaire, c'est une densité de probabilité, donc le deuxième terme, ça va être le gradient de Pt de x, produit scalaire, avec Vt de x. Donc ce que vous voyez, c'est que dans ce thème de divergence, vous avez deux termes. Le premier terme, si vous la mettez dans l'équation, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va, c'est une équation d'advection, ça va juste transporter la distribution de probabilité par le champ de vecteur Vt. Ça vient du fait que vos particules, elles ont bougé le long
de ce champ de vitesse, donc la distribution de probabilité, vous attendez à ce qu'elle soit shiftée le long du champ de vitesse. Mais il y a un deuxième phénomène qui se passe, c'est que vous voyez ici apparaître le gradient de Vt. Et le gradient de Vt, en fait, ça correspond exactement au terme de Jacobien. Ça vient du fait que si jamais vous avez une accélération, c'est-à-dire un gradient sur la vitesse, eh bien, vous allez avoir un phénomène de compression de la métrique, et donc vous allez avoir ce deuxième terme qui apparaît dans le Jacobien. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait le Jacobien, il apparaît directement à travers le gradient de Vt. Donc si j'ai V, ça se calcule sans problème. D'accord ? Il n'y a plus ce problème de Jacobien dès qu'on passe en continu. Alors comment est-ce que ça se démontre ? Donc j'avais dit, c'est un problème de conservation de la masse. Donc je suis dans mon domaine de X. Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer un volume V. Et je vais regarder le flux dans ce domaine V. Vous allez avoir un flux sortant et puis vous allez avoir un flux rentrant. Alors, pour regarder, et puis si jamais vous êtes... Le fait que vous allez avoir une conservation de la masse, ça veut dire que le flux sortant plus le flux rentrant va être égal à zéro, si vous mettez un signe sur le flux. Dans V. Donc, on va regarder les flux. D'abord, le flux qui rentre. Le flux qui rentre, on va pouvoir le calculer en regardant la distribution de probabilité P indice T de V, qui est l'intégrale de V de la proba PT de X. C'est-à-dire que je vais regarder la probabilité de tout ceci. Et je vais regarder l'évolution temporelle de cette probabilité. Si cette probabilité augmente, c'est que j'ai plus de particules qui sont arrivées à l'intérieur. Donc, ce que je vais avoir, c'est que le flux rentrant, il va être donné par dt de v sur dt. Et ça va être donc l'intégrale sur v de d de pt. Alors, je vais l'écrire comme ça sur dt. De x dt dx. D'accord ? Donc, je regarde l'évolution temporelle de la proba, et l'évolution temporelle de la proba, c'est les particules qui rentrent. Ensuite, je vais regarder les particules qui sortent, et le flux sortant, je vais le regarder en regardant comment se déplacent les particules. Les particules, elles se déplacent avec une vitesse Vt. Le nombre de particules qui se déplacent avec une vitesse Vt, il va être proportionnel à la probabilité en un point X de X. Et puis, là, je vais avoir ma surface S autour du volume. Le flux sortant, ça va être ceci, produit scalaire avec la normale, vecteur normal au point X, fois ds. D'accord ? Donc j'ai regardé toutes les particules qui sortent. Et maintenant, donc ça c'est mon flux sortant, je peux appliquer le théorème de la divergence. Qui me dit qu'une intégrale d'une fonction qui est ici, ce vecteur ici, produit scalaire avec la normale quand j'intègre sur la surface, c'est la même chose, donc ça c'est la surface de mon volume, c'est la même chose que l'intégrale sur le volume de la divergence de pt de x le V, je vais l'écrire comme ça, pour pas qu'il y ait de confusion.
D'accord ? Ça, c'est le champ de vitesse. OK ? Maintenant, je sais que la somme de ces deux termes doit être égale à zéro. Donc, si la somme de ces deux termes, donc j'ai l'intégrale là-dessus, plus ce terme-là, qui doit être égal à zéro. Mais ça, c'est vrai pour tout volume V. Donc, pour tout volume, l'intégrale du dt, de la dérivée de la probabilité, plus de la divergence de la proba fois la vitesse, est égale à zéro. Donc, j'ai une intégrale pour n'importe quel indicateur sur un domaine V d'une fonction qui est égale à 0, donc la fonction est égale à 0. Et si la fonction est égale à 0, ça veut dire que la dérivée de P plus la divergence de P fois la vitesse est égale à 0. Et ça, c'est le théorème qu'on voulait montrer, c'est-à-dire c'est l'équation qu'on a ici. D'accord ? Donc, c'est en fait une conséquence à nouveau de la conservation de la masse, le fait que les particules vont bouger. Simplement, ici, on l'a écrit en utilisant le théorème de divergence et on obtient donc cette équation de transport. Donc à nouveau, cette équation de transport, intuitivement, il faut la voir comme le fait que le PT, la proba, elle va se déplacer le long du flot, le long du champ de vitesse, et en même temps, son amplitude va changer parce qu'il va y avoir des effets de compression dus à l'accélération et donc aux dérivés du V. Alors, on va finir avec un modèle un peu plus général. Le problème de ce modèle ici, et notamment en physique, c'est que il impose de connaître parfaitement le champ de vitesse. D'accord ? Et en pratique, il y a des erreurs. Il y a des erreurs parce que on va se retrouver avec des modèles qui ne sont pas parfaits. Et donc, le champ de vitesse lui-même n'est pas exactement connu. Ou alors, on est dans un phénomène où il y a un vrai phénomène aléatoire intrinsèque. Et donc, on va le représenter en rajoutant un terme de bruit. Et ce terme de bruit, il est obtenu en rajoutant sigma dwt, où w, c'est un brownien. C'est-à-dire que, donc w, c'est un brownien, on va rajouter du bruit blanc. Alors physiquement, à quoi ça correspond ? Ça correspond, on va le voir, à un phénomène de diffusion. Typiquement, c'est ce qui se passe, par exemple, quand vous ouvrez une bouteille de parfum. Vous ouvrez une bouteille de parfum, toutes les molécules du parfum sont à l'intérieur, et puis petit à petit, vous commencez à sentir le parfum qui commence à se répandre. Comment ça se modélise ? Ben, vous avez des particules qui vont bouger, qui sont des atomes de parfum, en quelque sorte, molécules de parfum, de façon complètement aléatoire. Elles vont finir par certaines sortir du flacon et puis bouger de façon complètement aléatoire. Si vous avez des particules qui bougent de façon complètement aléatoire, suivant un mouvement brownien, donc ça, c'est le cas où vous n'avez pas de vitesse, le centre de gravité va rester au milieu, mais petit à petit, elles vont explorer un domaine qui devient de plus en plus grand, de plus en plus grand, et donc vous avez cette espèce de phénomène de diffusion. Et là, vous avez ce qu'on appelle une équation différentielle stochastique. Et en anglais, c'est SDE, Stochastic Differential Equation. Par contre, on peut ensuite regarder, donc, ce qui va se passer, c'est que contrairement au cas ici, vous allez avoir des trajectoires qui ne sont plus inversibles, parce qu'une particule, quand elle arrive en un point, elle peut aller soit à gauche, soit à droite. Donc, ce n'est pas parce que vous connaissez la position d'une particule que vous savez d'où elle vient. Par contre, à nouveau, ce que vous pouvez regarder, c'est la distribution de probabilité des particules.
Et là, vous allez voir que la distribution de probabilité des particules, elle, par contre, elle suit une équation de transport qui est une ODE et qui, elle, peut être inversée. Donc le point, c'est que si on regarde particule par particule, on ne peut pas inverser la trajectoire, mais si on regarde l'ensemble des particules, c'est aussi ce qu'on appelle parfois des solutions faibles, c'est-à-dire on regarde plutôt les distributions de proba, eh bien elle, par contre, elle peut être inversée. Et donc, nous, ce qui nous intéresse dans notre problème, c'est les distributions de probabilité, parce qu'au fond, on a imposé que T était inversible, mais on n'en avait pas vraiment besoin. Et si vous vous souvenez, quand on a regardé au tout début les chaînes de Markov, c'est un transport aussi aléatoire qui n'était pas inversible. Mais ce qui est intéressant, c'est de calculer la distribution de probabilité, pas de regarder la distribution de chacune. Donc là, d'une certaine manière, on introduit un niveau de flexibilité qui est important en physique parce que ça correspond à plein de phénomènes physiques chaotiques, mais aussi qui va nous donner beaucoup plus de flexibilité pour créer des transports qui sont inversibles sur les distributions de probabilité. Et ce que ceci va faire, ce qu'on va voir, c'est que ça va petit à petit mélanger les choses quand on commence à avoir une diffusion, et donc les distributions de probabilité vont devenir de plus en plus régulières. Donc, c'est quoi l'équivalent de l'équation de Liouville? Dans ce cas-là, on a rajouté ce nouveau terme. Ça va être l'équation de Fokker-Planck. Et l'équation de Fokker-Planck, elle est similaire à l'équation de Liouville, au sens où le premier terme est dû au terme de transport régulier, il va nous donner la même chose, c'est-à-dire que si on regarde l'évolution de la distribution de probabilité, le premier terme, ça va être la divergence de P fois le champ de vitesse. Mais il va y avoir un deuxième terme qui va être dû à ceci, et comme je l'ai indiqué, ça va être un terme de diffusion, donc ça va être un Laplacien qui va apparaître ici, de 1 demi de sigma carré de x fois pt de x. Alors, je vais d'abord vous donner un peu une intuition de d'où vient ce Laplacien. En fait, on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on va avoir une conservation de la masse, donc on va prendre le même type d'approche, c'est-à-dire qu'on va avoir un flux dans un domaine V avec un flux rentrant et un flux sortant, et on va obtenir une équation qui va nous dire que la dérivée de PT sur DT, c'est-à-dire le flux rentrant, va être égal à moins, ou si on l'écrit, excusez-moi, c'est plus, et plus moins ceci égale 0. Donc, plus la divergence d'une quantité qui va être donc le flux total, est égal à 0. D'accord ? La même chose, je regarde ce qui sort et je regarde ce qui rentre. OK. Et ce qu'on a vu, c'est que si on avait simplement une équation différentielle ordinaire, bah, le flux, ça va être donné par PT fois VT de X, c'est-à-dire ça va être le flux d'advection. Et qu'il va nous falloir calculer, c'est le flux qui est dû aux particules qui vont sortir aléatoirement, et donc ça va être ce qu'on appelle le flux de diffusion. Alors, l'idée, c'est que en physique, il y a une loi qui s'appelle la loi de Fick, qui dit que les particules, elles vont aller des endroits où il y a la plus grande densité vers les endroits où il y a la plus petite densité, ce qui est assez naturel. D'accord ? Quand vous avez une forte concentration, tout le monde bouge aléatoirement, vous attendez à ce que, en moyenne, les particules aillent vers des domaines, explorent des domaines de plus en plus grands, et donc que vous avez une forme de diffusion. Donc, vous avez cette loi de Fick, qui en fait se démontre, qui dit que le flux de diffusion, il va être moins 1,5 sigma carré fois le gradient de Pt de x. Autrement dit, plus le gradient est grand, plus ça va diffuser. Et si le gradient est nul, c'est-à-dire tout est plat, eh bien, vous allez avoir aucun flux, c'est-à-dire qu'il y en a autant qui vont rentrer, qui vont aller d'un côté que de l'autre. Alors, si on rentre ceci à l'intérieur de cette équation, vous allez avoir le terme moins divergence du gradient, et moins divergence du gradient, ça va vous donner le Laplacien. Donc, ça, ce que je vous propose, c'est de le démontrer dans un cas simple, c'est en 1D. L'intérêt de faire ça, c'est de vous donner une idée de ce que c'est qu'un mouvement brownien et de d'où vient un peu cette dérivée seconde qui est à l'origine de la régularisation de ces distributions de probabilité. Donc, je vais le faire en une dimension où je vais commencer à le faire. Je le finirai peut-être la fois prochaine parce que on est proche de la fin. Donc c'est justification de Fokker-Planck. Donc c'est pas une vraie démonstration parce que je ne le fais pas en 1D. Donc l'idée c'est de définir le mouvement brownien déjà en le discrétisant. Donc un mouvement brownien, c'est un processus aléatoire dont les incréments sont des variables aléatoires gaussiennes qui sont indépendantes. Donc, on va approximer le brownien par une marche aléatoire. Donc, une particule, pendant un pas de temps delta t, elle va pouvoir faire un saut delta x qui peut être positif ou qui peut être négatif. Donc on a un saut qui va être delta x, et puis vous avez une proba 1,5 pour qu'elle aille à gauche et 1,5 pour qu'elle aille à droite. OK ? Donc ça, c'est une marche aléatoire. Et puis ensuite, vous itérez là-dessus. La particule ici va pouvoir aller à gauche, soit à droite, etc. Donc la question, c'est à quelles conditions est-ce que ça va converger vers un mouvement brownien ? Donc si vous allez, vous prenez n pas de temps, donc vous allez arriver en un temps t qui est égal à n delta t. La particule, si elle part en zéro, elle va se retrouver en un endroit xt qui va être la somme de ces petits sauts. Chacun de ces petits sauts, epsilon k, il est égal à plus ou moins delta t avec proba 1,5, donc c'est des variables aléatoires qui, elles, sont toutes indépendantes, d'accord ? Donc ça va être la somme des epsilon k pour k allant de 1 à n. On peut maintenant regarder, donc vous avez une somme de variables aléatoires qui sont indépendantes, Donc cette somme de variables aléatoires indépendantes, ben, vous avez le théorème central de limite qui dit que ça va devenir gaussien. Et maintenant, on va regarder la variance de cette gaussienne. Ben, comme elles sont toutes indépendantes, et elles ont toutes même variance, et la variance, pardon, c'est delta x, à chaque fois le saut c'est delta x, la variance de xt, ça va être n fois delta x au carré. OK. Et ce qu'on voudrait, c'est que ceci converge vers un brownien. Mais dans le cas d'un brownien, donc là, on va bien avoir une variable aléatoire gaussienne, ça c'est bien, c'est ce qu'on a dans le cas d'un brownien. Et dans le cas d'un brownien, la propriété importante, c'est qu'après un temps t, la variance, elle augmente comme t fois la variance du brownien, c'est-à-dire t sigma carré. Donc ce qu'on veut, c'est que ceci soit et qu'on comme t sigma carré. Or, n, qu'est-ce que c'est? N, c'est grand T sur delta T. Donc là, je peux le remplacer. J'ai T sur delta T. Et donc, pour que ceci soit vrai quand exactement ce qu'on veut, je vais l'écrire ici, c'est que quand delta X et delta t tendent vers 0, ça, ça doit converger vers t sigma carré. Donc ça veut dire que delta x carré sur delta t doit converger vers sigma carré. Donc il faut que j'ajuste ma marche aléatoire de manière à ce que delta t carré sur delta x carré sur delta t converge vers sigma carré. OK, on va faire ça. Et maintenant, on va regarder l'évolution de la proba, c'est-à-dire la probabilité pour la marche aléatoire de x en un temps t plus delta t. Et on va l'écrire comme la probabilité... On va regarder l'évolution de la distribution de probabilité. Donc la probabilité en x en t plus delta t. Mais en t plus delta t, d'où viennent les particules en un point x? Elles viennent soit de là, soit de là. Donc du coup, ça va être la moitié de la probabilité en x plus delta t, delta x, pardon, en un temps t. J'ai mis la variable t ici. Plus la probabilité en x moins delta x, variable t. Et maintenant, je vous laisse faire le développement de Taylor. Là-dessus, vous allez obtenir l'équation. Et on va le finir la fois prochaine. C'est trois lignes. Mais comme ça, vous aurez l'occasion de faire les trois lignes par vous-même. Et donc, vous allez voir qu'en faisant un développement de Taylor de p de x plus delta x, au deuxième ordre, les termes du premier ordre vont disparaître. Tout ce qui va rester, c'est les dérivées secondes de P, et vous allez obtenir, à la place du laplacien, une dérivée seconde, c'est-à-dire le laplacien en 1D. OK, donc ça, on va le finir la fois prochaine, et on va faire l'échantillonnage par l'équation de Langevin. Ça va nous faire le lien avec ce que va nous raconter Gabriel dans à peu près 10 minutes. Donc, avant juste de conclure, il y a la cérémonie de signature comme d'habitude. Alors, on va faire comme la dernière fois, c'était mieux. Je vais les mettre là et vous pourrez, comme ça, vous n'aurez pas besoin, les A à droite pour les étudiants du MVA et les Z à gauche. Et comme ça, vous pourrez signer sans monter sur l'estrade. Et pour les doctorants, je vous signe le truc. Et donc, voilà, on fait une pause. Et juste après, l'exposé de Gabriel sur, transport optimal et score diffusion, donc vous allez voir un peu l'état de la recherche sur ces deux questions. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.